Merci. On a fait le livre à deux et donc on fera notre numéro à deux aussi. On parle beaucoup de la désindustrialisation de la France. On ne sait pas jusqu'où c'est préoccupant. On s'envoie des chiffres chocs. 2 millions d'emplois perdus sur les 5, d'emplois dans l'industrie perdus sur les 5 que comptait la France il y a 30 ans. L'industrie qui ne pèse plus aujourd'hui que 12,5%, un huitième du PIB. Mais au fond, est-ce si grave? Une partie de tout ça, ce sont des gains de productivité plutôt bienvenus. Il y a un siècle, la moitié de la population était dans l'agriculture et suffisait tout juste à nourrir les Français. Aujourd'hui, on a le même résultat avec 3% de la population dans l'agriculture. 17 fois moins de gens. Est-ce qu'on s'en porte plus mal? Les bras et les cerveaux libérés ont pu s'exprimer ailleurs et ça permet de plus s'éduquer, de mieux se soigner, de plus se distraire et de faire des tas de choses. Donc une partie, c'est la productivité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une autre partie n'est pas non plus très significative, c'est le fait que les entreprises se recentrent sur leur cœur de métier, et que donc des emplois qui étaient autrefois qualifiés d'industriels sont aujourd'hui qualifiés de services. Ça va du restaurant d'entreprise à sa comptabilité, à de plus en plus son informatique ou à des tâches plus sophistiquées. Là encore, les emplois n'ont pas disparu, ils ont été réétiquetés. Alors, c'est pas tout à fait neutre, parce que, comme le dira probablement Guillaume Duval, les gens qui sont sous les conventions des services sont parfois un peu moins bien traités que ceux sous les conventions industrielles, un peu en France et beaucoup en Allemagne, mais les emplois sont toujours là. Le vrai critère qui fait qu'on peut parler d'un décrochage industriel de la France, c'est que, jusqu'il y a peu, la France produisait plus de biens manufacturés qu'elle n'en consommait. Et c'était une bonne nouvelle, parce que comme il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas produire, comme les matières premières et l'énergie, il fallait qu'elle ait ce surplus de balance des paiements sur les biens industriels pour pouvoir se payer ce qu'elle n'avait pas. Aujourd'hui, il y a encore 10 ans, en 2002, le solde de la balance des paiements sur les biens manufacturés était d'environ 25 milliards. Aujourd'hui, il est négatif et il est de moins 25 milliards. Enfin, moins 29 en 2011, moins 15 parce que ça s'est un peu amélioré en 2012, et s'y ajoute à peu près 60 milliards à payer pour notre énergie. Donc on a un solde de balance des paiements très négatif, c'est-à-dire que chaque année, on s'endette. Et donc c'est là qu'on peut parler de décrochage. Nous ne produisons plus ce que nous consommons, et Pierre va nous expliquer pourquoi ça n'est pas complètement anodin.
Bien, il faut en effet partir de ce que vient de dire Thierry Veil. Avoir un déficit de sa balance des opérations courantes, c'est nécessairement s'endetter. Alors, qui s'endette? Les ménages, l'État, les entreprises elles-mêmes. Mais si un territoire a un déficit des opérations courantes, les acteurs du territoire s'endettent. Alors, la première question, c'est peut-on s'endetter et jusqu'où? Alors, on peut naturellement s'endetter. La globalisation de la finance rend la chose particulièrement facile. Mais bien évidemment, ça ne peut avoir qu'un temps. Il faut, à un moment donné, inverser les flux et rembourser sa dette. Et le seul moyen de rembourser sa dette, c'est de passer en excédent de la balance des opérations courantes. Bon. D'autre part, j'ai dit que s'endetter est aujourd'hui très facile, grâce ou à cause de la mondialisation de la finance. Mais en même temps, c'est très dangereux, puisque la finance ne vous envoie pas les signaux pour vous dire « attention, vous vous êtes trop endetté avant qu'il soit trop tard », comme on l'a vu pour la Grèce. Donc on n'est pas du tout dans un système linéaire où progressivement la pression monte pour que vous vous désendettiez. Non, la pression ne monte pas du tout, puis un jour ça craque. Et alors là, on est embarqué dans un cycle dont la Grèce nous donne un excellent exemple. Donc l'endettement est une solution au mieux transitoire. Pour redresser notre balance commerciale, qui est donc l'objectif, on pourrait compter sur les services. C'est un peu le mythe, un peu écorné aujourd'hui, de la société post-industrielle, la société de services. Finalement, l'industrie va connaître le même sort que l'agriculture. Dans quelques années, 3% des gens seront à la fabrication des choses, et tous les autres se rendront des services les uns aux autres. Bon. C'est une idée évidemment totalement fausse. Elle a encore malheureusement des partisans et elle conduit à négliger la gravité du diagnostic de notre déclin industriel. De manière générale, d'ailleurs, comme vient de l'évoquer Thierry, cette distinction industrie-service n'a aucun sens, en vérité. Il n'y a pas d'industrie sans service associé, il n'y a pas de service sans base industrielle. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais on y reviendra si vous voulez. Et donc, ce n'est pas la distinction pertinente. J'en ai proposé une autre, c'est cette nouvelle grille de lecture que j'ai en fait proposée en 1996 dans l'inégalité du monde, mais que j'ai un peu déployée depuis. J'ai proposé d'analyser ce genre de questions en termes d'emploi nomade et d'emploi sédentaire. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un emploi nomade ? C'est tout simplement un emploi qui, dans un territoire, est en compétition directe avec des emplois dans un autre territoire. C'est-à-dire que s'il perd sa compétitivité au sens classique du terme, l'emploi va disparaître dans le premier territoire et une firme globale va le recréer dans un autre territoire, puisque la demande, elle, la demande mondiale pour ces biens nomades, qui sont les biens qui circulent, n'a pas varié. Réciproquement, un emploi sédentaire, c'est un emploi qui fournit des biens et services qui ne traversent pas les frontières. Ce qui signifie que si un détenteur d'emploi sédentaire, parce qu'il devient moins compétitif, il y a évidemment une compétition très vive entre les emplois sédentaires aussi, perd son travail, eh bien, a priori, quelqu'un d'autre, par exemple un chômeur, va récupérer l'emploi. Les emplois, du moment que la demande qui s'adresse aux sédentaires reste constante, ne quittent pas le territoire. Bon, cette distinction, à mon avis, est fondamentale pour comprendre la globalisation. En fait, il y a actuellement une économie nomade, globale, si vous voulez, dans laquelle tous les emplois sont en compétition, et puis il y a autant d'économies sédentaires que de territoires. Les rapports entre les nomades et les sédentaires ne sont plus ce qu'ils étaient. Il est clair que dans un territoire, plus les nomades sont nombreux et se vendent cher sur le marché international, plus ils consomment de biens et services sédentaires, à la fois comme intrants dans leur production de biens nomades et en tant que consommateurs. Ils consomment des services. Donc, des nomades riches et nombreux entraînent leurs sédentaires. Mais en revanche, pour les nomades, il vaut beaucoup mieux que les sédentaires soient nombreux et pauvres. Parce que plus les sédentaires sont pauvres, plus ce que les nomades leur achètent est bon marché, et par conséquent, plus ils sont compétitifs dans l'économie globale, et c'est vrai aussi pour la consommation. Un ingénieur indien à Bangalore gagne deux fois moins que quand il était lui-même à Stanford, au taux de change de la roupie. Mais à Stanford, il vivait dans un bel appartement. En Inde, il vit dans une maison avec 10 domestiques. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que le domestique en Inde, ça ne vaut rien du tout. Parce que les nomades indiens sont de plus en plus riches et que les sédentaires indiens restent extrêmement pauvres. Bon. Ce qui, soit dit en passant, rompt toute solidarité objective entre les nomades et les sédentaires d'un territoire. Donc si solidarité doit y avoir, il faut qu'elle soit politique, ce qui est nettement plus difficile. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Là, vous avez le nombre relatif des nomades dans la population totale de différents pays. Vous remarquez qu'ils baissent partout et de façon très parallèle. C'est certainement l'effet de la productivité dont parlait Thierry tout à l'heure. Mais premièrement, il y a quand même des différences de niveau. L'Allemagne et le Japon se situent au-dessus et l'Italie en vert est encore plus haut. Au milieu, vous avez la France et en dessous, vous avez la Grande-Bretagne et les États-Unis qui, en fin de période, c'est de 92 à 2008, ne comprend plus que 12% d'emplois nomades, les États-Unis. Bon. La France est intermédiaire, encore une fois, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont très très peu d'emplois nomades désormais. Et l'Allemagne, l'Italie ou le Japon qui en ont plus. Mais ce qui est important, c'est ça. Ça, c'est la valeur ajoutée par emploi nomade divisée par la valeur ajoutée par emploi sédentaire. Donc, vous voyez très clairement qu'alors qu'en France, ça ne bouge pas, d'ailleurs en Italie non plus, cette valeur ajoutée s'améliore, augmente en Allemagne. C'est très spectaculaire, c'est en rouge. Et elle est plus élevée aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc, d'une certaine manière, c'est une inversion des hiérarchies. Il y a moins de nomades en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais ils sont plus riches. En tout cas, ils créent plus de richesses par emploi. Et en Allemagne, ce qui est frappant, c'est que le nombre de nomades diminue, mais la valeur ajoutée par emploi augmente continuellement. Ça signifie tout simplement que les nomades allemands sont de plus en plus qualifiés, ou en l'occurrence, là, on peut dire aussi, se vendent de plus en plus cher dans l'économie globale, dans l'économie nomade. Ce qui se traduit au niveau cette fois des salaires, parce que la valeur ajoutée se partage entre salaire, profit et baisse des prix. Au niveau des salaires simplement, vous voyez que les salaires des nomades par rapport aux salaires des sédentaires augmentent continuellement en Allemagne, alors que ça stagne en France, et que en Allemagne, désormais, un emploi nomade est payé près de 50% plus cher, ce que tu évoquais tout à l'heure, qu'un emploi sédentaire. Bon. Donc, l'Allemagne, certes, a une balance commerciale non seulement équilibrée, mais très excédentaire en biens industriels. Mais en Allemagne, comme chez nous, le nombre de nomades diminue. La différence, c'est que les nôtres ne se vendent pas assez cher sur le marché mondial. En revanche, en Allemagne, ce succès relatif de l'Allemagne se traduit par une augmentation significative des inégalités, en l'occurrence, entre les nomades et les sédentaires. Alors, si l'on veut rétablir notre balance commerciale, promouvoir la croissance, même verte, hein, et limiter la croissance des inégalités, c'est-à-dire ne pas suivre ce modèle dans l'archétype et les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais vers lequel est en train de converger l'Allemagne, mais là je laisserai Guillaume Duval en parler beaucoup mieux que moi, eh bien, il faut à tout prix non seulement augmenter la qualité, c'est-à-dire le prix auquel se vendent nos nomades à l'étranger, mais il faut augmenter leur nombre, particulièrement en France, où il est très inférieur à ce qu'il est en Allemagne, par exemple. Or, pour ceci, on ne peut pas compter, comme on le fait trop généralement, uniquement sur le high-tech, et quand on est français, même sur les marques. Puisque vous voyez là le pourcentage des emplois nomades qui sont classés high-tech dans la nomenclature de l'OCDE. C'est 10-12%, même en Allemagne. Donc on ne peut pas imaginer qu'on va laisser abandonner 88% des emplois nomades parce que les emplois high-tech vont croître à toute vitesse pour les remplacer. Donc il faut évidemment, je ne dirais jamais le contraire, j'en suis absolument convaincu, faire tous les efforts possibles pour créer des emplois dits high-tech, également dans les marques, y compris dans les marques de tourisme, bien sûr, mais high-tech plus marque, c'est 18% de l'emploi industriel en France, c'est tout. Alors, que peut-on faire pour augmenter le nombre des nomades et augmenter le prix auquel ils se vendent sur le marché mondial, qui sont les deux objectifs, et j'insiste, pas seulement le second, également le premier? Eh bien, il faut, à notre avis, c'est ce qu'on détaille dans le livre, agir à trois niveaux. D'abord, il faut agir à notre niveau, au niveau français, balayer devant notre porte. Ensuite, il y a de graves distorsions au niveau européen. Et enfin, je pense, on pense même qu'il faut agir aussi au niveau mondial. Donc Thierry Veil va maintenant vous parler de ce qu'on peut faire pour balayer devant notre porte.
Je vais rester local, sédentaire au niveau français, et Pierre Noël nous donnera une vision plus globale, plus européenne et mondiale. Bon, le diagnostic sur ce qui cloche en France est fait depuis longtemps. On est coincé dans le milieu de gamme. On n'a pas, comme les Allemands, une offre de qualité, de réputation, de contenu symbolique supérieur qui fait que les consommateurs seraient prêts à lui donner, enfin, ont un consentement à payer plus grand, sont prêts à payer 10, 15, 30% de plus pour avoir la sécurité ou les apports symboliques de la marque. Et on a par ailleurs un coût du travail qui est évidemment relativement élevé compte tenu de la qualité de notre protection sociale et un système de production qui ne s'est pas beaucoup modernisé. Donc on n'est pas non plus en capacité de se battre sur les prix. Donc on vend des produits que les gens ne veulent pas payer plus cher à un coût où d'autres peuvent les vendre moins cher. On pourrait, pour aller rapidement, énumérer quasiment tous les problèmes français comme un problème de manque de confiance, d'où le thème qui revient souvent chez Louis Gallois ou chez le Premier ministre, du choc de confiance. Manque de confiance au sein des entreprises, entre le management et les salariés, un dialogue social qui reste un peu archaïque, qui reste avec beaucoup de postures plus que de dialogue constructif, une coupure entre l'élite des dirigeants et les exécutants, avec un système de caste assez propre à la France, une difficulté, quand on est en bas de l'échelle, d'avoir beaucoup d'opportunités de promotion, comme l'accès à la formation continue. D'où, par exemple, un taux d'encadrement de la main-d'œuvre pour des entreprises comparables en Allemagne et en France, qui est beaucoup plus élevé en France. C'est-à-dire le salarié a moins d'autonomie et éventuellement, alors moins d'autonomie parce qu'on ne lui fait pas confiance ou moins d'autonomie parce qu'on n'a pas suffisamment formé et qu'il ne pourrait pas en prendre plus. Du coup, il faut beaucoup plus de main-d'œuvre indirecte autour de lui et ce n'est pas tellement les prix de la main-d'œuvre directe qui sont différents, c'est tout le coût de la superstructure qu'on est obligé de mettre. Manque de confiance aussi entre les entreprises. Beaucoup a été écrit sur la mauvaise qualité des relations entre les donneurs d'ordre et leurs sous-traitants et l'abus de pouvoir ou l'abus de faiblesse que pouvaient exercer à un moment donné les contractants au détriment de la capacité de disposer d'une filière de fournisseurs capable d'innover. Les politiques de filière tentent d'y remédier. Un manque de confiance entre les entreprises et la société qui existe depuis longtemps. On a préféré en France faire des politiques de stimulation de la demande plutôt que des politiques de l'offre, ce qui a conduit, par exemple, en 82, les gens auxquels on donnait un peu de pouvoir d'achat à acheter des magnétoscopes japonais, ce qui n'avait pas des conséquences très évidentes sur la croissance en France. Plus récemment, les gens s'achètent des ordinateurs et des smartphones que nous ne fabriquons pas, et le dernier avatar de cette politique, c'était le photovoltaïque, avec une subvention à l'installation de panneaux produits en Chine, plutôt qu'éventuellement une politique de filière permettant de mettre en place une filière compétitive en France. C'est aussi un financement drainé vers l'immobilier, par exemple, plus que vers l'industrie, avec des tas de mécanismes fiscaux incitant l'investissement immobilier, mais pas du tout le même volume de drainage de l'épargne vers les technologies ou vers les entreprises. C'est un choix, beaucoup plus que nos homologues européens, de taxer le travail plutôt que soit la consommation, soit les nuisances comme tout ce qui est atteinte à l'environnement. La Suède fait l'inverse et le rapport très récent du Conseil d'analyse économique prône d'ailleurs d'envoyer des signaux aux consommateurs en taxant de plus en plus l'énergie, en montrant selon quel rythme on va de plus en plus la taxer, mais sans mettre un poids supplémentaire sur les entreprises, c'est-à-dire en allégeant d'autant le coût du travail. C'est juste une répartition. Enfin, méfiance ou faible ouverture réciproque entre l'industrie et d'une part l'enseignement et la recherche, ce qui fait qu'aujourd'hui, un lycéen peut arriver en première sans avoir jamais mis les pieds dans une entreprise industrielle et sans que ses proches ou ses enseignants aient eu l'occasion d'y mettre les pieds. Guillaume pourra nous le dire, ça n'est pas du tout le cas en Allemagne. Alors, les pistes qu'on peut avoir pour balayer devant notre porte, ça résulte directement de ces constats, c'est tenter de favoriser la montée en gamme, de moderniser l'appareil de production, d'innover plus, d'ajouter plus de contenu de service à notre offre industrielle. C'est d'avoir une main-d'œuvre plus qualifiée et de mieux utiliser la plus grande qualification de la main-d'œuvre, donc attirer les gens et les motiver vers l'industrie, leur permettre des carrières évolutives. Je crois, ça doit être dans le livre de Guillaume, que le directeur général de Volkswagen a commencé comme ajusteur dans cette entreprise. Je ne suis pas sûr qu'on ait énormément d'exemples équivalents en France. C'est améliorer le dialogue social, et de ce point de vue-là, on a un peu d'espoir avec les récents accords de janvier, où il y a eu un donnant-donnant assez constructif pour plus de flexibilité et de sécurité des carrières. Enfin, c'est de favoriser un capital patient, un investissement dans les réseaux, un investissement des entreprises sur leur territoire. Mais je ne veux pas être trop long, car tout ne dépend pas de ce qui se fait en France.
En effet, une bonne part de nos difficultés sont l'inégale répartition de l'industrie en Europe et l'absence de moyens pour y remédier au niveau européen. Alors là, il s'agit de parler avec les Allemands. Mais l'importance du premier point, c'est que tant qu'on n'aura pas nous-mêmes balayé devant notre porte, les Allemands ne nous écouteront pas. Néanmoins, il est bien évident que l'Europe du Sud ne peut pas acheter tous ces biens manufacturés à l'Europe du Nord en leur vendant du tourisme et de l'huile d'olive et du vin. C'est totalement inenvisageable. Donc, de même que le Limousin ne pouvait pas acheter tout ce qu'il achetait au reste de la France uniquement en vendant, en l'occurrence, un bien industriel, la porcelaine de Limoges ou les produits de l'élevage. Mais qu'est-ce qui se passait avec le Limousin? Premièrement, des transferts publics importants, support de ce qu'on a appelé l'aménagement du territoire. Deuxièmement, pratiquement pas d'investissement direct étranger, si je puis dire, c'est-à-dire parisien en Limousin, mais en revanche, une énorme émigration des gens du Limousin vers la région parisienne ou d'autres bassins industriels. Donc en vérité, des transferts publics et de l'immigration. Bon. Le problème est exactement le même entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Les transferts publics, les fonds structurels, je n'y crois pas. Je n'imagine pas des transferts de la même importance entre pays européens qu'à l'intérieur de la France des Trente Glorieuses. Donc il reste deux solutions, les investissements directs ou les migrations. 800 000 personnes ont immigré en Allemagne l'année dernière, pour l'essentiel, pour travailler, pour l'essentiel des Européens. 800 000. 400 000 personnes ont quitté l'Espagne pour trouver du travail ailleurs. En ce moment, c'est le chemin qu'on prend. On a longtemps cru que ce ne serait pas possible à cause de la langue. En vérité, on voit que ce n'est pas le cas. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose, mais je doute que ça suffise. Et si ça s'amplifie, ça pourrait aussi, finalement, je suppose que les gens qui vont travailler en Allemagne, c'est soit par goût une minorité, mais sinon c'est faute de mieux. Donc reste la question des investissements. Il faut trouver le moyen d'une politique industrielle en Europe qui répartisse mieux les investissements. Autrement dit, si on se place du point de vue des Allemands, la solution n'est pas de vendre des Mercedes aux Grecs contre, d'un côté, et d'autre côté, de prêter aux Grecs pour qu'ils puissent leur acheter des Mercedes, c'est d'aller faire des investissements industriels en Grèce. C'est ça la solution. Sinon, tous les Grecs vont aller travailler en Allemagne. Voilà pour les questions européennes. Mais il y a aussi un problème au niveau mondial, je pense, que nous soulevons dans ce livre. L'industrie mondiale aussi est très mal répartie. Il n'y en a dramatiquement pas assez en Afrique. L'Afrique, 1,6 milliard d'habitants en 2060. Ce n'est pas l'agriculture qui va les faire vivre, même s'il faut une révolution verte en Afrique. Il faut une industrialisation massive, extrêmement rapide, une urbanisation massive de l'Afrique. Or, on n'en prend pas assez le chemin. Pas assez d'industrie en Afrique, plus assez en Europe et aux États-Unis, à mon sens. Et dans les pays émergents, Chine, Inde, etc., ce n'est pas qu'il y en a trop. Il n'y en a jamais trop, mais elle n'est pas assez tournée vers leur marché intérieur. Donc on voit bien comment on pourrait rééquilibrer tout ça. Nous, on a dit ce qu'on devrait faire, nous réindustrialiser. Il faut que massivement les Chinois et les Indiens investissent dans l'industrie africaine. Ils commencent à le faire et ils vont continuer à le faire. C'est eux qui vont industrialiser l'Afrique. Il faut les y inciter, par exemple en disant « on ne veut plus voir de textile chinois, ni même Bengali, etc. » Le textile, c'est une affaire régionale. Que la Chine achète du textile au Bengali, nous, on va acheter notre textile en Afrique. Donc vous, Chinois, si vous voulez produire du textile, allez le faire en Afrique, on vous le prendra. Mais c'est quand même eux les acteurs. Et il faut que les pays émergents se ressentent sur le marché intérieur, c'est-à-dire se lancent dans des 30 glorieuses à eux. On pourrait obtenir tout ça par des négociations, par des réévaluations monétaires, du yuan, etc. Mais si on ne peut pas, moi je pense qu'il faut préparer un plan B. Et moi, mon plan B, c'est bienvenue aux investisseurs chinois pour produire tout ce que vous voulez sur le territoire européen. Bienvenue aux Indiens, aux Brésiliens, etc. Mais si vous vendez chez nous, vous faites une partie de la valeur ajoutée chez nous. Voilà. C'est ce que les Chinois imposent. Quand on veut vendre un Airbus à une compagnie chinoise, il faut aller quasiment le fabriquer là-bas. Quand on veut vendre un Rafale à l'armée indienne, il faut leur transférer toutes les technologies. Et bien, pareil pour nous. On n'a pas encore vu arriver de voitures chinoises. C'est pour demain, parce qu'elles sont déjà au Brésil. Désormais, il faudra qu'ils aillent les faire à Valenciennes, comme Toyota l'a fait. Voilà. Mais ça, c'est le plan B. C'est la menace en cas de non-réussite de la négociation. Voilà. Merci et pardon d'avoir été 5 minutes trop long.
C'est le plan B, et comme vous le dites dans votre livre, c'est une politique européenne, et là je dis bonjour au travail.